journal, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'intensification de l'agriculture est à l'origine de la disparition des oiseaux en Europe. C'est ce qui ressort d'une étude, laquelle nous apprend par ailleurs que le nombre de volatiles a décliné de 25% en 40 ans sur le vieux continent.
Après de longs mois de mobilisation sociale au cours desquels Emmanuel Macron avait choisi de s'effacer, à présent que sa réforme a été adoptée, le président est désormais omniprésent.
Encore hier soir, le chef de l'État a multiplié à la télévision les annonces pour montrer que le pays n'est pas bloqué et ainsi tenter de réparer son lien avec les Français sans garantie toutefois de réussite. L'actualité à l'étranger également, nous serons notamment à Kiev où les habitants de la capitale ukrainienne ont été réveillés ce matin par une série de frappes russes d'une intensité que l'on nous décrit comme exceptionnelle.
Enfin ce soir aura lieu la cérémonie d'ouverture à la 76e édition du Festival de Cannes.
Une occasion de parler de la santé économique du 7e art avec notre invitée aujourd'hui Pauline Ginot, déléguée générale de l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Le chiffre est absolument vertigineux. Depuis près de 40 ans, 20 millions d'oiseaux disparaissent chaque année en Europe, soit près de 800 millions de volatiles de plus de 170 espèces différentes. C'est ce qui ressort d'une étude accablante, donc dirigée par le CNRS, publiée hier, et qui s'est attachée à trouver quelles activités humaines étaient responsables d'un déclin aussi spectaculaire. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Que nous apprend cette étude sur les raisons donc de cette véritable hécatombe? Trois facteurs sont mis en cause: le réchauffement climatique, l'urbanisation du continent et le principal responsable, Mathilde, l'agriculture intensive.
Oui, quand on dit agriculture intensive, on parle par exemple de l'usage des pesticides qui réduisent la quantité d'insectes présents dans la nature. S'il n'y en a pas suffisamment, les oiseaux ne peuvent pas se nourrir correctement, ce qui fait qu'on a une très forte mortalité, notamment chez les plus jeunes. L'étude démontre aussi que l'augmentation de la taille des fermes y est pour quelque chose, parce que les oiseaux ont beaucoup plus de mal à trouver des insectes dans ces immenses plaines en monoculture plutôt que dans des paysages diversifiés avec des haies comme dans le modèle paysan. Et puis l'agriculture intensive, c'est aussi des engrais qui polluent les nappes d'eau souterraines et de surface. Une chose en entraînant une autre, ça crée un impact sur la qualité de l'environnement, y compris des oiseaux. Quant aux autres facteurs, le changement climatique et l'urbanisation, effectivement, certaines populations du nord de l'Europe ont été très affectées par le réchauffement de la planète. C'est notamment la mésange boréale qui a reculé de 80%. Et l'augmentation des surfaces forestières en Europe ne parvient pas, en tout cas pas à elle seule, à inverser la tendance.
Alors, est-ce que cette étude, Mathilde, nous donne par ailleurs des pistes pour tenter d'enrayer cet effondrement?
La piste, c'est toujours la même: en finir avec l'agriculture intensive, diminuer de manière drastique l'utilisation d'engrais et de pesticides. Les chercheurs à l'origine de l'étude espèrent que la réforme de la PAC, la politique agricole commune, prendra ces résultats en compte. Mais on connaît les effets de ce modèle agricole depuis le début des années 2000 et force est de constater que pour l'instant, les alertes sont restées lettre morte. Le dernier exemple en date, c'est ce nouveau report de l'interdiction des néonicotinoïdes. Et pourtant, il s'agit bien d'un levier politique puisque, comme l'expliquent les scientifiques, les responsables, ce ne sont pas directement les agriculteurs, mais plutôt le modèle dans lequel ils sont enfermés.
Merci Mathilde Cariou. Parce que depuis son installation à Matignon, Elisabeth Borne cherche à imposer la marque d'une femme plutôt discrète et désintéressée. On l'imagine assez mal vouloir fêter en grande pompe aujourd'hui sa première année au poste de première ministre. Et d'ailleurs, que pourrait bien avoir envie de célébrer celle qui, dans l'enfer de Matignon, ainsi que l'on décrit souvent la fonction de chef du gouvernement, semble avancer de sursis en sursis. Et c'est donc en cultivant une fois de plus un style sans éclat, censé donner une image de solidité et de résilience, qu'Elisabeth Borne a choisi pour souffler sa première bougie, de convier tour à tour chacune des 5 organisations syndicales représentatives contre lesquelles elle s'est battue pendant des mois et qu'elle n'avait jamais encore revue depuis la promulgation de la très contestée réforme des retraites. Et tandis qu'Elisabeth Borne donc se retrouve de nouveau en première ligne pour renouer avec les syndicats et ainsi tenter de relancer tant bien que mal une démocratie sociale durement affectée par l'épisode des retraites, Emmanuel Macron, lui, renoue surtout avec lui-même. Après s'être déjà confié au journal L'Opinion, le chef de l'État était hier soir sur le plateau TF1 pour insister une fois de plus sur la constance de sa politique économique, récusant toute forme de mépris à l'égard des Français et reprochant même aux élus de s'être débinés face à une réforme impopulaire. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Hier soir, le président a eu beau le répéter à plusieurs reprises, le pays avance. On a tout de même le sentiment qu'Emmanuel Macron a du mal à se remettre en marche, même lorsqu'il esquisse une Bonne nouvelle pour les Français en promettant de concentrer sur les classes moyennes les 2 milliards d'euros de baisse d'impôts prévus d'ici à 2027. Il ne donne, Stéphane, ni détails. Ni date précise.
Non, effectivement. Cette annonce hier soir d'Emmanuel Macron d'une baisse d'impôts en direction des classes moyennes est encore très floue, puisqu'on ne sait ni sur quels impôts elle portera, le président a demandé au gouvernement de lui faire des propositions, ni à partir de quand elle s'appliquera, il a simplement indiqué quand la trajectoire budgétaire le permettra d'ici la fin du quinquennat. Ce qu'on en connaît, c'est son montant, 2 milliards d'euros, et le nombre de salariés sur lequel elle devrait porter, puisqu'il y a en France environ 13 millions de personnes qui touchent un salaire compris entre 1500 et 2500 euros. Fourchette donnée hier par le chef de l'État pour désigner les bénéficiaires de cette nouvelle baisse d'impôts. Si on fait un ratio, ça fait une baisse équivalente, en moyenne, à 150 euros par salarié. Au-delà des chiffres, cette annonce montre une volonté du président de reprendre la main après la difficile adoption de sa réforme des retraites. Les salariés concernés sont ceux qui subissent actuellement le plus les effets de l'inflation et ceux aussi à qui on vient d'annoncer qu'ils devront travailler plus longtemps jusqu'à 64 ans. Cette baisse d'impôts est donc une manière d'essayer de calmer la colère et la rancœur de cette partie de la population qui voit cette réforme comme particulièrement injuste. Plus globalement, on voit depuis quelques semaines un président qui se démultiplie sur tous les sujets et dans tous les médias. Il essaie de redevenir celui qui fixe l'ordre du jour, celui qui dicte l'agenda, le fameux maître des horloges de 2017. Et cette agitation médiatique d'Emmanuel Macron est d'autant plus frénétique qu'il est en partie paralysé politiquement, sans majorité à l'Assemblée nationale et sans possibilité de nouer des alliances pour continuer à gouverner.
C'est aujourd'hui que le gouvernement présente en Conseil des ministres son projet de loi sur l'industrie verte destiné à favoriser une réindustrialisation décarbonée de la France tout en vantant l'attractivité du pays, soit peu ou prou la principale bataille désormais de l'exécutif après la douloureuse crise des retraites. Alors dans le détail, que propose le gouvernement? Élément de réponse avec Hakim Kasmi et Alix Barrois.
Faire face à la concurrence américaine et chinoise et réduire de 18% les émissions de CO2 de l'industrie française, tel est l'objectif de ce plan sur l'industrie verte, qui comprendra notamment des mesures pour faciliter l'installation d'usines avec par exemple 50 sites fonciers clés en main. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
Pour ouvrir une usine ou agrandir une usine aujourd'hui, il faut avoir des sites clés en main, nous allons le faire. Il faut accélérer la dépollution des sites, nous allons le faire. Il faut accélérer les procédures administratives pour passer de 17 mois environ à 9 mois garantis, comme s'est engagé le président de la République, pour ouvrir une usine en France. Avoir du foncier, des terrains et accélérer l'ouverture des usines, c'est la première série de décisions radicales que nous prenons pour engager cette réindustrialisation.
Un projet de loi qui prévoit également de revoir l'attribution du bonus écologique pour les voitures électriques, puisque désormais, Bercy veut tenir compte du mix énergétique durant la fabrication des voitures électriques. On pense notamment à la Chine qui utilise beaucoup le charbon, la Chine qui à elle seule représente 40% des bonus écologiques attribués chaque année à ces constructeurs qui vendent leurs voitures en France. Bruno Le Maire.
Nous allons donc réserver le bonus électrique, par exemple, aux véhicules électriques qui ont le bilan carbone le meilleur possible. Et les véhicules électriques qui ont le bilan carbone le meilleur possible, du début à la fin de leur production, ce sont les véhicules produits en Europe. Désormais, le bonus électrique, qui peut aller jusqu'à 7000 euros pour l'achat d'un véhicule, sera réservé aux véhicules produits en Europe. Parce que nous voulons, je n'hésite pas à le dire, protéger notre industrie, protéger nos savoir-faire, protéger nos usines.
Enfin, ce projet de loi sur l'industrie verte comprend également un crédit d'impôt qui pourrait aller de 20 à 45% pour les entreprises qui fabriqueront notamment des batteries pour les voitures électriques, des éoliennes ou encore des pompes à chaleur.
Et pour faciliter cette fois-ci la construction de nouveaux réacteurs, le Parlement s'apprête, lui, à adopter définitivement aujourd'hui le projet de loi de relance du nucléaire avec un ultime vote de l'Assemblée. Et puis, hasard du calendrier, c'est encore aujourd'hui que la France réunit à Paris l'Alliance des pays européens pro-nucléaire, un rassemblement qui vise en particulier à renforcer l'indépendance du continent vis-à-vis de la Russie. Un an justement après avoir exclu la Russie du rare forum occidental dont Moscou faisait partie, les dirigeants de 46 États membres du Conseil de l'Europe se retrouveront cet après-midi en sommet en Islande pour afficher leur unité, mais plus encore pour multiplier les moyens de rendre la Russie pénalement responsable des destructions et des crimes causés par son invasion de l'Ukraine. Enfin, au lendemain du retour annoncé du président Volodymyr Zelensky après sa tournée en Europe, les défenses anti-aériennes ont à nouveau déchiré ce matin le ciel de la capitale, Kiev, pour y repousser une énième attaque de drones et de missiles. Alors a priori, on ne dénombre que 3 blessés et peu de dégâts. En revanche, ces frappes ont été aussitôt décrites comme particulièrement exceptionnelles et même effrayante. Pour quelle raison? La réponse avec notre correspondant Camille Magnard.
Exceptionnelles par leur intensité et leur complexité. Pas moins de 18 missiles russes lancés sur Kiev et 9 drones en l'espace d'un petit quart d'heure. C'est du jamais vu selon les autorités locales et ça a mis à rude épreuve les batteries de défense antiaérienne chargées de protéger le ciel de la ville, plus que jamais cible numéro 1 des frappes russes. Complexité aussi par la diversité des missiles utilisés, où l'on retrouve tout ce que l'arsenal russe compte de plus lourd et de plus perfectionné. 6 missiles hypersoniques Kinjal, 9 calibres, 3 Iskander-M ou S-400, des armes que la défense antiaérienne ukrainienne a beaucoup de mal à intercepter, comme nous le confirme le colonel Yuri Ignat, porte-parole de l'armée de l'air ici.
Tous ces missiles balistiques russes, nous n'avons pas les moyens de les abattre, à moins d'utiliser des missiles patriotes américains, mais nous en avons très peu.
Rien que la semaine dernière, la défense ukrainienne a dû utiliser 7 de ces missiles patriotes pour détruire un premier Kinjal russe. On ne sait pas combien ont été tirés la nuit dernière, mais on sent bien que les Russes ont voulu tester les forces antiaériennes de la capitale, forcer les patriotes à rentrer en action aussi pour essayer de les localiser avec des drones tactiques, pour ensuite tenter de les détruire. Les Ukrainiens le savent, ils changent très souvent leur batterie de position et communiquent à minima sur l'utilisation des patriotes. L'armée de l'air ukrainienne estime que les frappes de la nuit dernière ont coûté 110 millions d'euros à la Russie, dépensés en quelques minutes et pour un résultat nul à court terme, puisqu'aucune cible stratégique n'a été touchée ici à Kiev.
Quand bien même le président sortant Recep Tayyip Erdogan se retrouve désormais en ballottage pour le second tour de la présidentielle en Turquie, du jamais vu en 20 années de règne. L'échéance s'annonce toutefois périlleuse pour l'opposition qui manque aujourd'hui cruellement de réserve de voix. Alors bien sûr, rien n'est encore joué, mais dès lors que ni la crise économique, pas plus que la dérive autoritaire du régime n'auront suffi à déloger l'autocrate au premier tour, c'est vrai qu'on voit mal comment la coalition hétéroclite de l'opposition pourra rattraper ces quelques 2 millions de voix de retard. Seul espoir, aller chercher les votes du candidat nationaliste Sinan Oğan, arrivé à la troisième place dimanche dernier et qui, avec ses 5 petits points, se retrouve en position de faiseur de roi. Sauf que son électorat est extrêmement volatile, pas attaché à un parti en particulier. Le candidat négocie d'ailleurs lui-même en ce moment avec Recep Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu. Notre envoyé spécial, Jean-Sébastien Soldaini, est allé à la rencontre de ses militants. Reportage.
Les drapeaux qui tapissent le mur d'entrée du café de Bilal ne sont pas là au hasard. Il y a l'ancien drapeau de l'Empire ottoman, celui du Turkistan, des symboles pour ceux qui, comme lui, rêvent de la Grande Turquie, aller récupérer les territoires historiques tout en rejetant ceux qui, assure-t-il, n'ont rien à faire ici.
C'est à cause des Syriens que nous n'avons pas la tranquillité. À cause d'eux que les jeunes n'arrivent pas à trouver du travail, car les Syriens travaillent à des salaires plus bas, sans la sécurité sociale. C'est à cause d'eux aussi que les loyers augmentent.
3,5 millions de réfugiés que chacun des deux candidats veut désormais renvoyer de l'autre côté de la frontière. Une bonne façon de plaire à ceux qui se qualifient de nationalistes turcs. Plaire, oui, mais pas encore suffisant pour décider, Emin.
Il n'y a rien qui m'attire dans le programme du président Erdogan. Je n'y retrouve pas mes valeurs politiques. Et ce qui est dans son programme, ce sont des choses qu'il a déjà faites.
Rien ne l'attire, c'est pourtant pour Recep Erdogan qu'il dit vouloir voter au second tour, par rejet de Kemal Kılıçdaroğlu, qui a pour seul tort de s'être allié à la gauche pour tenter de l'emporter.
Un reportage signé Jean-Sébastien Soldaini. C'est un procès en destitution qui doit s'ouvrir aujourd'hui en Équateur. Pour la deuxième fois en moins d'un an, les députés sont appelés à se prononcer sur une procédure visant l'impopulaire président conservateur Guillermo Lasso, accusé par ses détracteurs de malversation. La gauche majoritaire au Parlement y voit déjà une occasion de se débarrasser de la droite et de reprendre des forces après avoir elle-même vécu la chute de son leader, l'ex-président Correa, condamné par contumace à 8 ans de prison pour corruption. De quoi réveiller évidemment le spectre de l'instabilité dans le petit pays andin, décidément miné par les crises politiques. Croisette et tapis rouge à partir d'aujourd'hui pour la 76e fois. Chacun à sa façon aura donc l'opportunité de faire son cinéma à l'occasion de la cérémonie d'ouverture ce soir du Festival de Cannes. L'occasion aussi de parler de la santé économique du 7e art avec notre invitée aujourd'hui, Pauline Ginot, déléguée générale de la CID, l'Association du cinéma indépendant, pour sa diffusion. Bonjour madame.
Bonjour.
Et je précise tout de suite que c'est aussi le début donc du festival pour votre association qui, comme chaque année depuis 30 ans maintenant, présente une sélection parallèle au festival de 9 longs métrages fiction et documentaire. Alors plusieurs indicateurs semblent acter de la plutôt bonne santé du cinéma aujourd'hui. On parle d'un retour à la situation d'avant le Covid, des résultats encourageants portés par d'importants succès commerciaux. Mais que se passe-t-il à l'ombre des blockbusters? En clair, qu'en est-il du côté de la distribution de films indépendants?
Écoutez, c'est, vous l'avez dit, c'est évidemment un peu plus compliqué, que les chiffres sont un peu plus complexes et à prendre avec un peu plus de recul que ce qu'on voudrait, ce qu'on nous annonce. Il y a quelques blockbusters qui tirent une fréquentation générale, c'est vrai, mais nous, ce qui nous intéresse et ce qui nous interroge beaucoup à la CIT, qui est donc une association de cinéastes indépendants qui s'engage pour la diffusion des films, c'est sur la question des films de l'émergence, des documentaires, des films qui ont des économies plus légères et plus fragiles. Et là, on voit bien que la période, en fait, qu'on a traversée est extrêmement dangereuse et que nous ne sommes pas tout à fait sortis encore des difficultés. On peut se féliciter d'une reprise, c'est vrai. Au niveau de la réessai aussi. Et on voit des films comme Shinakas ou About Kim Soe qui sont, dont les résultats sont extrêmement encourageants. Bien sûr, il y a la qualité indiscutable de ces deux propositions, mais ce sont aussi des films qui ont une vraie visibilité auprès des publics. Et nous, ce qui nous interroge et qui nous inquiète beaucoup au niveau des cinéastes de la CID, c'est qu'on voit que, par contre, dans les habitudes de programmation, dans les habitudes de fréquentation, on n'est pas revenu encore tout à fait à la même visibilité que ce qu'on avait avant le Covid. Et c'est notamment les premiers longs-métrages, les films qui sortent sur moins de 40 copies, les documentaires, les propositions plus atypiques, aussi les moins formatés, qui en souffrent le plus. Et évidemment, si elles n'ont pas de visibilité en nombre de séances, le public ne pourra pas les découvrir.
Parmi les voix qui se sont élevées après la crise du Covid contre la désertion des salles, celle de Jérôme Sédou, le milliardaire à la tête de Pathé, a souvent été relayée. En l'occurrence, son modèle, c'est plutôt celui tourné vers des films à très gros budget, capable de faire venir beaucoup de spectateurs et surtout de leur faire acheter des places dont le prix a fortement augmenté. Est-ce que la prise de position stratégique d'un acteur aussi central complique votre travail de mise en valeur d'un cinéma, disons, plus singulier, surtout plus fragile économiquement?
Je ne dirais pas que les films de la CID ont toujours été défendus par Pathé, pour être honnête. La position de Jérôme Sédou, c'est celle d'un industriel qui dirige, en fait, une société qui est capitalisée et qui est... Allô, vous m'entendez?
Oui, absolument.
Vous m'entendez? Ah, pardon. Qui est, en fait, capitalisée en bourse, et son intérêt à lui, ou qui va rentrer en bourse, c'est celui de rassurer ses actionnaires. Évidemment, ça ne va pas... Le sens des intérêts des actionnaires de Pathé ou de ses dirigeants n'est pas celui du public en général, on s'en doute. Vous l'avez dit, l'augmentation des prix à des prix qui deviennent hallucinants et délirants, avec des prix dans une période d'inflation où la question du coût de la vie est une question quotidienne pour beaucoup de Français, on peut s'interroger sur une volonté de priver une partie des Français, par des raisons financières, de l'accès à des œuvres, évidemment. C'est donc à partir de là un problème pour tout le monde, puisque les films sont faits dans une perspective d'offre. Chacun d'entre nous qui les fait, qui les produit, qui les distribue, cherche toujours à rencontrer du public. Et les salles, dont Pathé est le plus grand parc en France actuellement, sont évidemment la porte d'entrée.
Il n'y a pas de vase communicant entre un cinéma, disons, populaire d'un côté, qui attire les spectateurs, et puis un cinéma d'auteur de l'autre, qui vit des recettes du premier par l'entreprise du CNC?
Alors attention, le cinéma d'art et essai vit aussi de ses recettes auprès du public. C'est même un cinéma qui a un modèle économique qui est quasiment plus rentable et plus facilement rentable. Quand on produit un film avec 200 000 euros ou moins d'un million, le point d'équilibre financier est beaucoup plus facilement atteint que quand on produit un film à 30 millions, évidemment. Par ailleurs, attention aussi, des structures, y compris comme Pathé, touchent de l'argent du CNC. C'est-à-dire qu'ils ont des fonds de soutien automatiques qui leur génèrent beaucoup d'aide, quand même, notamment pour rénover leurs salles, pour en faire des salles ICE ou je ne sais quoi. Toutes ces salles touchent de l'argent du CNC. L'opposition entre le cinéma d'auteur qui serait subventionné et le cinéma, on va dire, que vous appelez populaire, je vais revenir, je ne suis pas tout à fait d'accord, qui serait sans subvention, est quelque chose qui est vraiment profondément faux. Tout le système cinéma français, de Pathé jusqu'à un petit cinéma à réessai, jusqu'à un petit producteur à ciné, en fait, bénéficie d'un fonctionnement de redistribution des richesses collectives. Mais le cinéma à réessai et le cinéma de la recherche, comme les très grosses productions, qui par ailleurs, elles, bénéficient par ailleurs de crédits d'impôt, etc. Donc d'autres de mécanismes d'aide publique, vraiment. Là où un cinéma à réessai va faire la différence, si on parle au niveau des salles, c'est qu'il va faire un travail d'animation du territoire, un travail de présence locale. Il va donc avoir un rôle quasiment social, en fait, si vous voulez, dans sa place dans la cité, dans son place du collectif. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, évidemment, et qui fait toute la différence, surtout entre un multiplex qui n'a pas beaucoup d'âme ni d'odeur, pour lire rapidement, et une salle qui, évidemment, a un travail humain à hauteur de spectateurs.
C'est bien noté. Merci Pauline Ginot, déléguée générale de l'ACID, l'association du cinéma indépendant, pour sa diffusion, d'avoir répondu à l'invitation de France Culture. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation. Puis je précise que le prix coup de cœur des jeunes ACID France Culture sera remis samedi sur la Croisette. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Une France coupée en deux, un soleil plutôt généreux à l'ouest, des nuages et des averses à l'est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Yann Coudrier. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.